Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Bélard Mbouyi, il est journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com. Bonjour Bélard Mbouyi.
Bonjour Guy Massé.
Maître Timothée Mbouya, il est membre de la société civile du Haut-Katanga et président national de l'ONG Justicia Asbel, basée à Lubumbashi. Bonjour Maître Timothée Mbouya.
Bonjour Monsieur Guy Massé.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Bonjour Madame Colette Blackman.
Bonjour.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestateur de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Bélard Mbouyi, les journalistes et directeurs du site d'information économique finance-cd.com. Maître Timothée Mbouya, il est membre de la société civile du Haut-Katanga et président national de l'ONG Justicia Asbel, basée à Lubumbashi. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Au menu de cette émission, 129 personnes mortes, dont 24 par balle, après sommation ce lundi à Kinshasa, tel est le bilan officiel de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Analyse de la tension entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature et ses probables conséquences. Et enfin, le sommet Chine-Afrique qui s'est tenu à Beijing du 4 au 6 septembre. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la crise qui prévaut au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. En effet, il n'y aura plus de passage en force ce samedi 7 septembre au siège de l'UDPS. Les deux camps opposés ont été reçus ce jeudi à Limete par maman Marthe Kasalu, la mère du chef de l'État. Elle leur a prodigué des conseils. Et par conséquent, les deux parties se sont convenues de ne plus entreprendre les actions qu'elles avaient prévues pour ce samedi. Le camp de Deo Bizibou, secrétaire général désigné par la Convention démocratique du parti, avait envisagé de prendre la possession du siège du parti en délogeant Augustin Kabuya, secrétaire général officiel du parti présidentiel. Pour s'opposer à cette action, Augustin Kabuya avait décidé de recourir à la légitime défense. Après donc cette réunion autour de Maman Marthe, les deux camps ont décidé d'attendre le retour de Félix Tshisekedi, haute autorité de l'UDPS. Bélard Mbouyi, sera-t-il possible de départager les deux camps sans pour autant créer des frustrations?
Bon, il y aura certainement des frustrations. Vous savez, le problème c'est que l'UDPS est un parti qui a milité pendant de très longues années pour instaurer dans le pays l'état de droit, le respect des textes, la démocratie. Curieusement, elle ne montre pas elle-même qu'elle est à la hauteur. de respecter ses propres statuts. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un épiphénomène. Le fond du problème étant au départ la création de la nouvelle direction à la tête du parti, après la première élection de Félix Tshisekedi, qui en était le président, à la présidence de la République. Le statut de l'UDPS à l'époque disait ceci clairement, que lorsque le président a un empêchement définitif, donc il doit être remplacé par un triumvirat, c'est-à-dire trois personnes, c'est-à-dire le secrétaire général, le président de la convention générale du parti, ainsi que le président de la commission électorale nationale du parti. C'est un triumvirat qui devait conduire le parti en attendant jusqu'à la fin du mandat du président statutaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Le président du parti qui a été élu président de la République a préféré nommer le secrétaire général comme étant président ad intérim. Ça, c'était déjà une violation des textes de l'UDPS à ce moment-là. Et celui qu'on a nommé président intérim, un poste qui n'était pas prévu par les statuts, Jean-Marc Kabounda à l'époque, il a comme fonction statutaire secrétaire général. Maintenant, à son tour, il nomme un secrétaire général ad intérim, c'est-à-dire qu'il nomme un secrétaire général pour le remplacer lui à sa propre fonction statutaire. Donc vous voyez, ça crée un désordre administratif au sein du parti terrible. Cela fait que le jour où Jean-Marc Kabounda a été finalement renversé de la présidence ad intérim du parti, Augustin Kabouya en est devenu le patron. Mais c'est totalement dans l'illégalité la plus absolue. Augustin Kabouya, logiquement, il était secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il ne pouvait pas être secrétaire général ad intérim. Il a été nommé de façon irrégulière. Donc, on est dans ce tohu-bohu-là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Bon, l'UDPS est parfois habitué à vivre des choses comme ça. Et demain, ils s'en sortent quand même. Bon, on souhaite qu'ils puissent bien s'en sortir. Parce que c'est un parti qui a les militants les plus violents de tout le Gotha politique congolais. Il ne faut pas que leur discorde aboutisse, se transforme en des affrontements des rues dans la ville. Personne n'y a intérêt.
Merci.
Voilà ce que je pouvais dire là-dessus.
Merci, Maître Thibautien Mbouya. Bélard Bouy l'a rappelé, hein, c'est depuis 2019 que perdure cette crise. À votre avis, à qui profiterait cette situation au sein de l'UDPS?
Bon, il faut dire que l'UDPS est un parti politique, l'un des rares partis politiques au pouvoir qui se fragilise ou qui se divise. Mais la division au sein de l'UDPS ne date pas d'aujourd'hui. C'est un fait comme mon prédécesseur vient de le rappeler, c'est un fait qui date de plusieurs années déjà, depuis très longtemps. Les gens au sein de ce parti n'ont cessé de se diviser. C'est depuis aux années de sa création déjà qu'on voyait qu'il y avait des scissions, qu'il y avait des divisions. Et ce qui est quand même un peu bizarre, c'est qu'une fois au pouvoir, au lieu de se souder, au lieu d'avoir une même vision et d'aller de l'avant, les partis ne fait que s'affaiblir. Déjà, on a noté la présence le départ de Jean-Marc Kabounda, alors qu'il était secrétaire général d'intérim de ce parti. Et aujourd'hui, la bataille se focalise autour de Kabouya. Bon, demain, ça sera autour de qui? Et après demain, quand le parti ne sera pas au pouvoir, quelle sera sa survie? Bref, c'est quand même un spectacle désolant auquel on assiste aujourd'hui. On aurait, ce serait passé dans un parti politique de l'opposition en quête de moyens ou de pouvoir pour survivre, ça se comprendrait. Mais que ça arrive dans un parti qui est au pouvoir et qui est en train de faire sa sixième ou septième année au pouvoir, c'est vraiment désolant et ça démontre que les gens n'ont pas été préparés à la gestion du pays et c'est là. Bon, on observe encore, on espère que ça ne va pas avoir de répercussions sur la marche du pays ou le fonctionnement des institutions.
Merci, Madame Colette Lachmann. Ça peut être quoi l'enjeu ou les enjeux de cette crise?
C'est une lutte pour le pouvoir, hein, mais c'est tout de même dangereux et triste parce que l'UDP est un parti qui a des lettres de créance depuis tant d'années dans sa lutte pour la démocratie et maintenant ils ont toutes les cartes en main et ils se disputent entre eux avec une vision d'avenir qui n'est pas très claire, quoi. Donc je trouve ça assez désespérant.
Merci, on prend une petite pause avec Sakola de Papa Wemba Kofi Olomide et on revient juste après. Et Sakola, cette chanson contenue dans l'album Wake Up, sorti en 1996, et à travers laquelle Papa Wemba et Kofi Olomide prônent le vivre ensemble, la tolérance et l'amour du prochain. Au réveil de l'actualité cette semaine, la première ministre Judith Suminwa a exprimé mercredi 4 septembre la volonté de son gouvernement de poursuivre le processus de désengorgement de la prison centrale de Makala. Elle l'a dit à la presse à l'issue de sa visite dans cette maison carcérale où 129 personnes ont trouvé la mort lors d'une tentative d'évasion massive lundi 2 septembre. La chef du gouvernement a également assuré que la cuisine de la prison centrale a repris du service après quelques heures d'interruption dues à ces incidents. Elle a échangé avec des femmes victimes de viol et les a assurées d'une prise en charge rapide du gouvernement. Judith Suminwa a en outre rappelé la mise en place d'une commission pour permettre au parquet de déterminer ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 1er au 2 septembre dans cette prison. La première ministre a été accompagnée de quelques membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur. Madame Colette Blackman, vous êtes journaliste au journal Le Soir et vous avez souhaité analyser cette actualité. On vous écoute.
Mais je crois que c'est un véritable défi à la justice parce que cette prison, elle a été construite du temps des Belges. Elle devait abriter 1500 détenus. Maintenant, c'est au moins 10 fois plus dans des conditions qui ont été décrites récemment par le journaliste Stanislas Boujakérin qui a passé plusieurs mois dans cette prison. Et donc là, je crois que pour les autorités, c'est un défi urgent parce que le nombre de morts n'est pas acceptable. Les conditions dans lesquelles s'est passée cette émeute, la réaction disproportionnée des forces de l'ordre, mais qui n'avait pas d'autres moyens non plus, parce qu'elle n'avait pas des moyens moins violents qu'il était possible d'utiliser, c'est vraiment un défi dans une situation de démocratie, c'est inacceptable.
Oui, Madame Colette, 5 jours après, on n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à dire avec certitude d'où est parti le mouvement, est-ce que c'est de l'intérieur ou de l'extérieur, mais aussi on n'arrive toujours pas à préciser les facteurs qui ont déclenché ces mouvements, et on a même l'impression que même les prisonniers eux-mêmes n'arrivent pas à dire avec précision ce qui est à la base de cette situation. Comment vous expliquez cela?
Mais c'est typique des grands mouvements de foule, quelque chose les déclenche, et puis alors tout le monde s'y met, la police perd un peu la tête, elle tire dans le tas, et finalement on ne sait plus ce qui a commencé. Apparemment, d'après les témoignages de témoins oculaires, il y a eu une grande panne de courant, d'électricité, donc cette énorme prison avec 15 000 personnes a été plongée dans l'obscurité, et on peut très bien accepter l'idée que certains, on se sont dit, c'est l'occasion d'essayer de s'enfuir, de faire un trou dans le mur, d'enlever les briques, etc. Et donc, une atmosphère de panique et d'émeute, et les gardiens ont tiré sur la foule. La garde républicaine est entrée en action et elle a tiré dans le tas parce qu'il y avait une atmosphère de panique générale, d'émeute, et aussi le service d'ordre n'est pas préparé à faire face à ce type de situation. Donc là, il y a un problème de maintien de l'ordre, de discipline et tout. Et évidemment, à la base de tout, c'est le surpeuplement, c'est la nécessité urgentissime de trouver un autre lieu de détention et de maîtriser, disons, au sens large, la criminalité qui explose à Kinshasa. Chaque fois qu'on va à Kinshasa, les gens vous parlent des Kuluna, des bandits, des gens qui vous découpent à la machette, qui vous menacent. Il y a une dégradation énorme de la sécurité qui est due, hélas, à une dégradation des conditions de vie et une explosion de la population et de la pauvreté.
Merci, Bélard Mouy. Vous êtes journaliste et directeur du site d'information économique finance-.com. Les prisonniers qui cherchent à s'évader se permettent, n'est-ce pas, d'incendier des bâtiments administratifs, ils se permettent d'incendier l'infirmerie, ils incendient même les dépôts de vivres et vont même saboter la cabine, n'est-ce pas, du courant électrique. Ils pénètrent même dans les cellules des femmes pour y commettre des actes de violence. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer les choix de ces différents lieux?
Bon, d'abord, il faut que ça tienne la route, hein, cet argumentaire-là. Il faut que ça tienne la route. Oh, ça ne tient pas du tout la route, sauf si on veut nous prendre pour des imbéciles, ça ne tient pas du tout la route.
C'est la version officielle.
Lorsqu'on veut s'évader... Ah ben, enfin, c'est la version officielle. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans convaincre personne. Lorsqu'on veut s'évader, on peut comprendre qu'on puisse attaquer la cabine qui fournit la desserte en électricité de la prison pour créer un peu l'obscurité qui peut aider à s'évader. Mais aller perdre son temps à faire des choses qui n'ont aucune incidence sur le projet évasion, ça ne tient pas la route du tout. On réalise combien le gouvernement a eu du mal à s'exprimer sur ce dossier. Et le gouvernement a d'abord fait le choix de mentir à la population. Parce que le vice-ministre de la justice, son poste nom c'est Kabuya, il est passé sur une des radios concurrentes de Kinshasa le même jour. Il a expliqué qu'il y avait seulement 2 morts. Mais à l'heure des réseaux sociaux, il y avait tellement de vidéos qui montraient des corps par dizaines et par dizaines, des camions en train de ramasser des corps, que c'était vraiment ridicule de tenir avec ce genre de discours. Cela fait que dans la soirée, le gouvernement a changé son fusil d'épaule et nous a finalement annoncé ce bilan de 129 morts en nous disant que sur les 129, il y avait 24 par balle et les autres par étouffement. Ma foi, ils étaient étouffés, ils étaient où pour étouffer un tel nombre? Donc si vous faites 129 moins 24, il vous reste 125. 125 sont morts par étouffés. Combien de gens étaient couchés au-dessus d'eux pour qu'ils puissent étouffer? Tout ça, vraiment, il n'y a rien qui nous paraît vraisemblable là-dessus. Il faudrait certainement qu'il y ait une enquête indépendante, que peut-être le Parlement initie une enquête indépendante à laquelle puissent être associés des défenseurs des droits de l'homme, comme Justice Asbel de M. Timothée Mbouya de Lubumbashi, J'apprécie beaucoup les autres qui sont à Kinshasa, comme Azado par exemple, et d'autres encore. Comme ça, on pourra nous faire vraiment la vérité sur ce qui s'est passé. La part que le gouvernement a mal communiqué, il a dit deux choses, plusieurs choses différentes à la fois. On nous a parlé de deux morts le matin, de 129 morts le soir. On nous a parlé d'une tentative d'évasion par le vice-ministre de la Justice et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Et quand le ministre d'État de la Justice arrive, il va à la prison, il dit que ce n'est pas une tentative d'évasion, c'est un sabotage de l'action du gouvernement. Donc dans tout ça, nous, le public, nous regardons, nous nous disons, mais la vérité, elle est où? Il faudrait une vraie enquête indépendante, crédible, qui puisse donner des résultats auxquels nous pouvons croire.
Merci, merci, Maître Timothée Mbouya. Vous êtes membre de la société civile du Haut-Katanga et président national de l'ONG Justicia Asbel, basé à Lubumbashi. Bella Mbouyi vient d'évoquer cette question de la mise en place d'une commission d'enquête. En fait, les événements de ce lundi à la prison centrale de Makala rappellent ceux de 2017 et dont les enquêtes n'ont jamais abouti jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité sur ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala le lundi 2 septembre dernier, Maître Timothée Mbouya?
La réponse est très simple. On ne connaîtra jamais la vérité. Il y a eu pas mal d'incidents d'ailleurs qui se sont déroulés dans les prisons, dans plusieurs prisons. Le cas de 2017, il y a un cas tout récent de 2020. Qui s'était produit à la prison centrale de la Kasapa, dont on n'a jamais connu ni les tenants ni les aboutissants, mais on sait néanmoins qu'il y a eu des personnes qui avaient été tuées et des femmes violées. La plus grande désolation dans ces événements, c'est que on remarque que le gouvernement ne prend jamais les mesures qu'il faut pour essayer d'éradiquer ce genre d'événements. Donc je crois que moi je suis très pessimiste, je crois que il n'y aura pas de cette commission d'enquête ou de cette commission d'enquête mise en place par le gouvernement, il n'y aura pas la vérité, on ne connaîtra jamais ce qui s'est passé, et ça restera un mystère, mais non plus, malheureusement aussi, on ne prendra jamais de dispositions pour que pareils incidents ne se reproduisent. Aujourd'hui, on parle de 129 morts selon le bilan officiel, mais officieusement, le bilan serait encore beaucoup plus lourd que cela, donc c'est beaucoup de citoyens qui sont fauchés comme ça, et simplement par, je dirais, la responsabilité du gouvernement qui a décidé de transformer les prisons congolaises en mouroirs. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui entrent en prison malades de maux de la tête en sortent pratiquement malades de tout le corps. Donc ça signifie que la prison aujourd'hui ne remplit même pas son rôle, même pas ses fonctions, notamment de resocialisation. Et les gens qui reviennent de là deviennent encore plus délinquants et plus bandits qu'ils ne l'étaient avant. Et tout ceci, je crois, il n'y a que le seul gouvernement qui est responsable de la gestion des prisons.
Maître Timothée Mbouya, vous êtes vous-même avocat. Et à votre avis, pourquoi les enquêtes souvent n'aboutissent jamais? Est-ce fait sciemment ou c'est dû au fait que les enquêteurs eux-mêmes ne sont pas assez outillés pour faire ce genre de travail?
Non, je ne pense pas que ce soit un problème des enquêteurs. Les enquêteurs, il y en a, même il y en a au parquet, il y en a dans les grandes institutions des Nations Unies, notamment la MONUSCO, tout ça. Les enquêteurs, les gens compétents, on les a. Mais je pense que ce qui fait que ces enquêtes n'aboutissent pas, ça doit être le fait que, le gouvernement qui initie souvent ce genre d'enquête, à un moment donné, quand ils se rendent compte que lui-même est impliqué, où sa responsabilité peut être soulevée à l'une ou l'autre étape de ces enquêtes, et on décide, malheureusement, certaines personnalités ou certains responsables décident d'étouffer la vérité. Et donc c'est simplement cela. Les moyens sont là, les moyens humains, les moyens matériels, tout est là, mais c'est un problème de bonne volonté. Monsieur Mbouyou disait tantôt que il y a eu la volonté de ne pas dire la vérité à la population. On l'a senti déjà dès les premières heures de la perpétration de cet incident. On a senti que la volonté n'était pas de dire la vérité à la population. Et donc, si Déjà, dès le départ, on sait que la volonté n'y est pas. Bon, je crois que le reste est biaisé. Peut-être la chance, c'est comme on l'a dit, qu'il y ait mise en place une commission d'enquête indépendante. Une commission d'enquête indépendante, parce que une enquête gouvernementale serait malheureusement composée des gens dont la responsabilité serait évoquée dans ce drame. Et donc, c'est déjà dès le départ, on sent que ça ne va aboutir à rien. Donc, pour nous, nous continuons à appeler de tous nos voeux à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante qui seule peut aider à élucider les circonstances exactes de la commission de ce fait, mais également déterminer les raisons ou les causes réelles pour lesquelles ces événements se reproduisent à répétition dans les différentes prisons de la RDC, et éventuellement aider le gouvernement à prendre des mesures pour que ce genre de choses ne surviennent plus.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Manoah Kouakou, dit Pépé Feli, vient de fêter ses 70 ans d'âge. C'était le 19 août 2024. On va donc écouter l'une de ses compositions intitulée Obi, chanson qu'il avait composée dans l'orchestre Zaïko Langalanga, et on revient juste après.
Yeah.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur le sujet de la crise qui prévoit au sein de l'UDPS. Nous avons également analysé les événements qui se sont produits à la prison centrale de Makala dans la nuit de dimanche à lundi. Participe à cette émission, Bélan Mouy, les journalistes et directeurs du site d'information économique finance-cd.com. Maître Timothée Mbouya, membre de la société civile du Haut-Katanga, il est président national de l'ONG Justicia Asbel, basé à Lubumbashi. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Pacman, elle est journaliste au journal Le Soir. Guerre relancée entre les conseils supérieurs de la magistrature, les ministères de la justice et garde des sceaux sur l'administration de la justice en RDC. Le bureau du conseil supérieur de la magistrature désapprouve l'interdiction du transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Nolo par les ministères de la justice, accusant les magistrats d'être à la base de la tentative d'évasion des prisonniers par les faits de la surpopulation. Réuni mercredi soir, le bureau du conseil supérieur de la magistrature recadre et le vice-ministre de la Justice. Selon le Conseil, la solution appropriée à la surpopulation carcérale tient à la fois à la construction des nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur les régimes pénitentiaires. Rappelons que la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature est consécutive à une note circulaire du vice-ministre de la Justice signée le 2 septembre relative à l'interdiction des transférements des détenus préventifs à Makala et Ndolo. Toujours mercredi, le ministre de la Justice, fraîchement revenu de son itinérance en province, a effectué une visite surprise à la prison centrale de Makala tard dans la soirée. Et à nouveau, avec colère, il a enfoncé le clou contre les magistrats, promettant des sanctions contre, d'après lui, les saboteurs des actions du chef de l'État qui font sortir de manière clandestine des prisonniers de Makala. Maître Timothée Mbouya, vous avez souhaité analyser la tension entre les ministères de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature, ainsi que ses probables conséquences. On vous écoute.
Alors, la tension est de plus en plus perceptible entre le ministère de la Justice et le conseil supérieur de la magistrature. Disons que depuis l'entrée en fonction du ministre Constant Mutamba, on a constaté par des interventions de sortie médiatique une espèce de s'attaquer à, de dénoncer la justice ou de s'attaquer à la justice, avec raison ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que déjà tous les Congolais savent que la justice a un problème. La justice congolaise, c'est vrai, elle a un problème de fonctionnement, elle a un problème d'homme. Bref, tout le monde décrit la justice, tout le monde dit que la justice ne fonctionne pas bien, et il est rare que la justice soit véritablement rendue à celui qui en a besoin. Tout le monde le dit. Le chef de l'État lui-même l'a déjà dit à plusieurs reprises. Mais la particularité ici, c'est que c'est le ministre de la Justice lui-même qui monte au créneau. Et ça fait que, du coup, la première conséquence, c'est que ça accentue la méfiance entre la population, le Congolais et la justice. Donc, le Congolais, je pense que, avec toutes ces dénonciations, vraies ou fausses, ne vont pratiquement plus faire confiance à la justice, et même celui qui, en réalité, ne devrait pas avoir raison de se plaindre d'avoir obtenu une justice en sa défaveur, je pense que toutes ces personnes-là vont continuer à se plaindre, et ça risque également d'avoir un impact réel sur les magistrats, sur les juges et les procureurs, si vous voulez. Alors, il est à redouter, d'ailleurs, que certains d'entre eux, surtout ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, puissent payer les frais. Notamment, il pourrait y avoir même des attaques individuelles ou des attaques ciblées, des attaques physiques, ce qui n'est pas une bonne chose et ce qui n'est pas à encourager. Mais également, on constate que le gouvernement, qui est l'exécutif, essaye d'interférer dans les fonctionnements d'une autre institution, une institution pourtant indépendante telle que la Constitution de la République le prévoit. il aurait tout au moins été souhaitable que les ministres de la justice puissent réactiver, si ça n'existe plus, les mécanismes de collaboration entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature ou la justice de manière générale, pour que, à travers ces mécanismes-là, ils puissent échanger, discuter sur les solutions éventuelles pour que la justice puisse réellement être dite au profit de la population ou au bénéfice de ceux qui en ont réellement besoin. Mais également, bon, est-ce que cette tension est voulue pour une exploitation politique? Tout n'est pas exclu, mais c'est quand même déplorable, c'est quand même pas souhaitable que le gouvernement, l'exécutif, se mette à mettre le bâton dans le roue d'une autre institution qui est la justice.
Merci, Madame Colette Brackmann. Lorsque vous suivez les deux camps, les deux partis, vous avez l'impression que tout le monde a raison. Les ministres insistent du fait que pendant qu'on est dans un processus de désengorgement des prisons, les magistrats continuent à amener, n'est-ce pas, des prisonniers, à envoyer des prisonniers à la prison centrale de Makala et d'Indolo. Mais les magistrats rétorquent en disant qu'ils ne peuvent pas remettre en liberté des personnes dangereuses, des criminels. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, les amener là où ces personnes doivent être incarcérées. Et à votre avis, comment on peut harmoniser ces deux positions?
Mais c'est difficile parce que c'est vraiment un cercle vicieux et de mon point de vue, ils ont tous les deux raison. Si les magistrats arrêtent des malfaiteurs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Ils ne vont pas les laisser dans leur bureau, donc il faut bien qu'ils les amènent quelque part, c'est-à-dire dans la prison, mais le lieu doit être adapté. Or, la ville de Kinshasa en particulier a explosé, c'est une énorme population et il faut retourner aux causes premières. Pourquoi y a-t-il autant de délinquants aujourd'hui dans Kinshasa? Moi j'ai connu cette ville qui n'était pas du tout comme ça il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il n'y a pas assez de travail, parce qu'il y a trop de pauvreté, il y a trop d'emplois informels où les gens ne gagnent rien ou doivent vivre d'expédients. Il faut retourner aux sources du problème qui est de donner un travail constant et aux gens, et ça les empêchera de devenir des malfaiteurs. Et alors il faut un appareil de justice régulier et peut-être des peines alternatives aussi. On ne peut pas nécessairement enfermer les gens dans des prisons. On peut leur donner des peines comme les mettre au travail, faire des travaux d'intérêt public qui serviront de peine, mais qui empêcheront les gens d'être en détention, ce qui est peut-être la plus mauvaise solution maintenant. Donc il faut inventer des solutions, mais il faut aussi retourner aux sources qui sont la surpopulation et surtout la surpauvreté de la population de Kinshasa qui engendre nécessairement la délinquance.
Merci Bella Mouy. Le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature sont des partenaires et d'ailleurs pour que les réformes initiées par les ministres de la Justice produisent des résultats escomptés, la collaboration entre les deux parties doit être, n'est-ce pas, démise. Mais avec cette divergence de vues, comment vous entrevoyez la suite dans ce secteur de la justice en RDC?
Bien, merci. Alors, merci. Vous me permettez je dirais un petit mot sur Pedro Félix Manokouakou, Pépé Félix, dont vous avez balancé tout à l'heure le morceau Obi, qui est sorti quand j'étais en 6e primaire, vous imaginez l'émotion, et qui a fêté donc son 70e anniversaire tout récemment, et vous en avez parlé, donc je lui souhaite joyeux anniversaire. Manokou, c'est le fondateur de la 3e école de musique qui est en vigueur encore jusqu'à ce jour dans ce pays. Donc,
merci beaucoup pour cette contribution, Bélan Mouy.
Merci beaucoup. Alors, pour revenir à votre question, il est vrai que les deux doivent bien mieux collaborer pour que la justice puisse aller de l'avant. Mais puisque nous avons notre amie Colette dans cet échange, qui est belge, j'aimerais quand même, si vous le permettez, que je rappelle quelque chose qui s'est passé en Belgique. Vous savez, en août 2022, la justice tunisienne avait réclamé l'extradition d'un citoyen tunisien qui s'appelait Abdesalam Lassoued. Le magistrat compétent belge a traité le dossier et l'a classé sans suite. En 2023, ce Tunisien-là a commis un attentat et qui avait tué deux personnes. Je serais tenté de dire deux personnes seulement. Alors, quelle a été la conséquence? Puisque le magistrat dépend du ministre de la Justice, alors le ministre de la Justice de l'époque en Belgique, il s'appelait, je crois, Vincent Van Kinkelborn. Il a démissionné, c'était le vendredi 20 octobre 2023. Il a démissionné parce qu'il est le responsable de la magistrature. Et que c'est la magistrature qui avait refusé d'extrader ces Tunisiens qui finalement a causé 2 morts à Bruxelles. Chez nous, il y a 129 morts, ce n'est pas 2, 129 morts. Et qui est le patron de prison chez nous? Qui est le gestionnaire de prison chez nous? C'est le ministre de la Justice. Alors, il ne doit pas venir nous dire c'est la responsabilité des magistrats qui ont envoyé. Non, c'est lui le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice, c'est lui le patron des prisons, c'est lui le responsable de ceux qui viennent d'arriver là. C'est lui qui devrait démissionner pour assumer la responsabilité politique de ce carnage qui vient de se passer à Makala. C'est ça la réalité. Il ne doit pas venir ici nous accuser le magistrat. Comme ça, son successeur va tout faire pour qu'il n'y ait pas de tels dégâts à l'avenir. C'est ça qui doit se passer en réalité. Bon, depuis qu'il est arrivé, il fait un peu du populisme, il décide que si on voit les gens qui sont homosexuels, on doit les arrêter, les condamner à 5 ans de prison, alors qu'il n'existe aucune loi qui criminalise l'homosexualité dans le pays. Ça, c'est du populisme. L'opinion aime ce genre de choses. Mais quand vous regardez dans le fond, quelles réformes pratiques il a déjà menées pour améliorer notre justice? Il n'y en a pas. Juste le fait de faire payer les frais de justice par la banque, ça c'est juste du point de vue administratif, tout simplement. Mais une réforme pour rendre notre justice plus équitable, plus juste, plus correcte, plus crédible, pour que les citoyens congolais puissent croire en elle. Il n'y a rien, il n'y a rien jusqu'à présent. C'est juste ce populisme dans lequel il est passé maître, tout simplement. Alors, de temps en temps, le Conseil supérieur de la magistrature le rappelle à l'ordre. Ce n'est pas la première fois. Lorsqu'on a parlé récemment ici de ce problème qui a consisté à l'expulsion de sa résidence d'un diplomate français, immédiatement le ministre de la Justice a sauté pour suspendre le procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Et le Conseil supérieur de la magistrature a dû rectifier pour arranger les choses, en lui rappelant que c'est à lui qu'il revenait de faire ce boulot-là, en suspendant à son tour ce magistrat-là, pour donner la forme à ce qui avait déjà été fait. Donc vous voyez, on ne réforme pas la justice en violant les prescrits de cette même justice-là. On ne réforme pas la justice en faisant trop de populisme. On ne réforme pas la justice en jouant avec les émotions des gens, pour se rendre populaire. Ce n'est pas de cette manière-là que ça doit se faire. Et nous devons nous poser la question, quelle était la vision du président de la République qui vient d'être réélu pour l'amélioration de la justice? Qu'est-ce qu'il pensait, lui, pour que la justice ne puisse plus fonctionner comme elle fonctionnait sous Kabila? C'était quoi sa vision à lui? Parce que là, on a l'impression que c'est juste ce jeune ministre transfuge du PPRD de Kabila qui vient appliquer juste ses propres idées. Et quelles étaient les idées du président lui-même dans son programme pour améliorer la justice? Apparemment, il n'y en avait pas. Donc, on en est là avec un ministre qui amène ses propres idées, qui est rappelé souvent à l'ordre par le Conseil supérieur de la magistrature, et le président se tait, le premier ministre se tait, on est un peu là, il fait cavalier solitaire avec ses propres idées. Un pays ne fonctionne pas comme ça.
Merci, on fera une petite pause en écoutant Jimmy de Boni M, on revient juste après.
Jimmy, my heart is full of love, only true love, and its wisdom and visions of you. Jimmy, there's words unspoken and unbroken, only you can ensure you can have my love.
C'était Jimmy avec le groupe Bonnie M. Je rappelle que nous avons dans cette émission Bélard Mouille, journaliste et directeur du site d'information économique finance-cd.com, Maître Timothée Mbouya, membre de la société civile du Haut-Katanga et président national de l'ONG Justicia Asbel, basé à Lubumbashi, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, et les journalistes au journal Les Soirs. Le 9e forum sino-africain organisé du 4 au 6 septembre à Beijing a réaffirmé la position de la Chine en tant que principal partenaire commercial de l'Afrique. Cette réunion a mis l'accent sur les technologies vertes, les infrastructures et l'économie numérique avec une promesse d'aide financière de 50 milliards de dollars de la part de la Chine pour le continent. Bélard Mouille, vous avez opté pour ce sujet, on vous écoute.
Eh bien, quand on regarde les différents sommets Chine-Afrique qui se succèdent, ainsi que les interventions de la Chine en Afrique, avec la coopération entre la Chine et l'Afrique, on remarque une chose, c'est que la Chine est très claire quant à ses objectifs. On rappellera qu'à l'issue du sommet Chine-Afrique qui s'est tenu à Dakar en 2021, la Chine avait élaboré ce qu'elle appelle la vision 2035 Chine-Afrique, qui est alignée sur sa propre vision 2035 de la Chine, hein, et qui cherche à consolider le statut de la Chine en tant que grande puissance. Alors, une lecture attentive des deux documents montre que la Chine considère son engagement avec les pays africains comme un moyen de faire progresser sa quête de statut de grande puissance, de leader de ce qu'on appelle actuellement le Sud global. Donc, un moyen d'arriver à ses fins sur le plan international. La Chine s'attire ainsi la sympathie de nombreux pays africains, voire du tiers monde, du sud global en général, par exemple lors des votes au niveau des Nations Unies, dans la quête de la reconnaissance de la politique d'une seule Chine, donc c'est en ce qui concerne la question de Taïwan que tout le monde connaît bien. Alors, les interventions des Chinois en Afrique sont considérées par beaucoup d'autres experts comme augmentant l'endettement de pays africains. Vous savez, la dernière décennie, grâce à l'appui des pays occidentaux, les institutions financières internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, avaient pu mettre en place ce qu'on a appelé le processus PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés, qui a aidé à annuler une grande partie de la dette des pays africains. Mais on constate que avec la Chine, ces pays sont en train de se réendetter à nouveau. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Djibouti a une dette envers la Chine qui représente 84% de son PIB. Donc le ratio dette sur PIB est de 84%, c'est-à-dire c'est très élevé pour un pays aux capacités économiques aussi faibles. Notre voisin du sud, l'Angola, doit à la Chine aujourd'hui 25 milliards de dollars. Et quand on regarde le cas de Djibouti par exemple, ce sont des certains projets qui ont été faits et dont Djibouti devait rendre l'argent à la Chine à certaines échéances, mais c'était totalement impossible au point où la Chine a dû reprendre ses infrastructures en main. C'est vrai qu'au niveau de la RDC, notre dette n'est pas si excessive, parce que le président Joseph Kabila l'a laissé autour de 5 milliards. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous sommes à 10 milliards quelque chose, ce qui fait que le ratio dette sur PIB est seulement à 21% en 2022. Donc c'est une dette qui reste peu élevée, qui est encore supportable, c'est vrai. Mais déjà nous devons reconnaître que sur ce près de 10 milliards de dettes que nous avons, la banque chinoise Exim Bank of China, à elle seule, nous lui devons 4,6 milliards de dollars. Donc à peu près 50% de notre dette actuelle, nous la devons à une banque privée chinoise.
Justement, Bélard Mouille, justement, par rapport à cette question relative à l'endettement, n'est-ce pas, des pays africains, la Chine, lors de ces forums, a exprimé certaines inquiétudes, hein, n'est-ce pas, sur la volonté et la capacité des pays africains à pouvoir un jour rembourser toutes ces dettes. Et comment vous expliquez que d'un côté, on s'inquiète, n'est-ce pas, de la capacité, de la volonté de ces pays de pouvoir respecter leurs engagements, mais de l'autre côté, on semble être déterminé à continuer à donner des prêts à ces pays.
Mais justement parce que en vous endettant davantage, vous mettez la corde au cou, vous devenez un pays dépendant de la Chine. Donc le jour où la Chine a besoin de vote aux Nations Unies, vous votez en suivant le mot d'ordre qu'il va vous donner. Ça c'est d'un. De deux, pour les pays qui ont certaines richesses minières, et peut vous dire on transforme cette dette-là en troc, donc argent contre vos richesses minières, comme ce que nous avons vécu avec les cinq chantiers ici. Et vous remarquerez que le premier contrat qui avait été signé a été très largement en faveur de la Chine et en défaveur du Congo. Il n'y a pas que longtemps ici que le secrétaire général des finances a dû retravailler dessus, ce qui a permis certains amendements pour qu'on nous rajoute quelques milliards de dollars qui vont porter le total que la Chine nous doit à 7 milliards de dollars. Donc vous comprenez un peu ça. Mais en plus de ça, la Chine a dit qu'elle va décider de la suppression des droits douaniers pour les produits de plusieurs pays africains les moins avancés, dont 33% d'Afrique subsaharienne. Alors, que va offrir la RDC à la Chine? C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est la première destination des produits congolais. Mais ces produits, faut-il le dire, à 76% de notre commerce extérieur, on le fait avec la Chine, mais ils portent sur des produits miniers, donc le cuivre et le cobalt, tout simplement. Donc nous n'amenons pas les produits de notre industrie ou de notre agriculture à la Chine. Non, c'est juste des produits miniers qui sont des produits bruts. Si nous continuons ce commerce des produits bruts, la RDC ne se développera jamais. Nous devons arriver à transformer nos propres produits et vendre à l'extérieur des produits finis avec une forte valeur ajoutée.
Merci.
Dernière chose, la Chine offre également 50 milliards de dollars en investissement pour l'Afrique. Il faut même que je dise ce mot, un mot sur là-dessus. Eh bien, quelle est notre capacité d'absorption d'une part de ces 50 milliards? Moi, je plaide pour, par exemple, qu'on puisse désenclaver la région centre, qu'on puisse proposer à la Chine, parce que lors de la conclusion des contrats chinois, la première chose qui devait être faite, c'était l'exploitation du nickel du Kassai central. Mais le projet fut abandonné parce qu'il n'y avait pas de courant électrique, alors ils sont partis faire le cuivre au Katanga. Or, s'il y a un montant si élevé qui est proposé, je propose au gouvernement congolais de pouvoir construire un barrage électrique important à Katendo, Kassai central, qui puisse permettre l'exploitation du nickel du Kassai qui n'avait pas pu être fait à l'époque de Saint-Chantier.
Merci. Merci Madame Colette Wattmann. Jusque-là, les partenariats entre la Chine et l'Afrique ne concernaient que les secteurs économiques, mais à l'issue de ce 9e forum, la Chine a proposé une coopération militaire avec les pays africains. Comment vous expliquez cette évolution dans ces partenariats Chine-Afrique?
Mais je crois que la Chine se comporte comme aujourd'hui comme une grande puissance. Elle a retrouvé au niveau mondial, si vous voulez, le statut qu'avait l'empire du milieu d'autrefois. La Chine se comporte et donc elle a grande puissance. Elle a tous les volets de la coopération, y compris le volet militaire, qui est d'autant plus important que elle se trouve confrontée à évidemment des réactions hostiles de la part des pays des anciens maîtres du monde, les pays occidentaux, les États-Unis. Elle est en dans la compétition et donc elle veut se doter de tous les moyens nécessaires à la compétition, ce qui n'est pas très, ce ne rend pas très optimiste sur les perspectives de paix au niveau international. Mais donc la Chine a besoin de nouveaux alliés, elle courtise les pays africains, mais là les pays occidentaux ont une responsabilité aussi, parce que au lieu de développer les économies des pays africains, ils les ont laissés dans des économies primaires, simplement de pourvoyeurs de matières premières, avec des contrats qui étaient quand même léonins et injustes, qui ont finalement obligé les pays africains à se tourner vers la Chine. Moi, je me souviens très bien du président Kabila en 2006, après son élection. Il a attendu pendant 2 ans que l'Europe investisse au Congo, mette de l'argent, l'aide à développer son pays. Et puis, comme rien ne venait, parce que l'Europe investissait en Europe de l'Est, dans les pays de l'Est, ben finalement, il s'est tourné vers la Chine dans les conditions que l'on sait. Il n'a pas fait une affaire, c'est un contrat inégal, évidemment, mais c'était ça ou rien.
Merci. Maître Timothée Mbouya, on finit cette émission avec vous. La Chine a investi massivement dans les infrastructures en Afrique. Et à votre avis, quelle peut être la contrepartie pour la Chine de tous ces investissements?
Bon, la contrepartie, c'est simple. La Chine est en train d'envier les ressources minières des pays africains, notamment de la République démocratique du Congo. La Chine est très présente dans le Haut-Katanga et dans les Lualaba. Elle est très présente dans les cuivres, les cobalt, maintenant les lithium et d'autres minéraux. Et je pense que si on n'avait pas ces richesses, si on n'avait rien, la Chine ne serait pas venue vers nous, vers les Africains. Bon, elle essaie de faire pratiquement ce qu'ont fait les Européens depuis les années des indépendances. Et je crois que si nous-mêmes, Africains, nous-mêmes Congolais, nous ne mettons pas en place des bonnes stratégies pour essayer de tirer profit de cette coopération, ben nous allons nous plaindre encore plusieurs années après que la Chine ne nous a pas aidés à nous développer. De toutes les façons, les infrastructures que les Chinois sont en train de construire, particulièrement dans ce pays, pour la plupart déjà, vous avez eu raison de souligner le 5 chantiers, la plupart de ces infrastructures sont en train de démontrer leurs faiblesses parce que c'est déjà des infrastructures qui sont pour la plupart en très mauvais état. Et je crois que, comme je le disais tantôt, si nous ne prenons pas des mesures pour que ces investissements, pour que cette coopération soit rentable à l'Afrique, la Chine va prendre toutes nos ressources minières et nous ne garderons rien parce que nos minerais sont épuisables, malheureusement épuisables.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Colette McMahon, Monsieur Bélard Mouy et Maître Timothée Mbouya. Merci aussi à Jean-Claude Thiara qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy et d'Hervé Voka sous la supervision des PL équipés La Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec C'est comme ça la vie du Seigneur Rochero Taboulé dans l'orchestre Kafouza International et on se retrouve le samedi prochain.
Bando ta moto, bunda, tonga o banda kama, bunda, finga o kebaka. Oye aki libala bombanda mama, na yambiyo na boboto, bana kisi kolata kosukola o gengi, enemi a liboso se la munda, oyo ande mokili bumba. Ya mwana muto Munda Oyo e mwana Yesu pona yuda Munda Bensa nzoto yu Okuti maka kwa samba miso Poti kosukola ye miso ke mama Mokola fungola miso mpo Moto ya liboso akobeta se yo
Bonza, itakoka mwa Bonza, se kom salavi Bonza, pasi ya mwana moto eke fama Bonza, se kom salavi
Okuti ndako mikolo miso zungu na moto tokoli ya toko kola Okoti libaro kobete langa bana mikolo nyoso se kofinga
Bonza, itakoka mwa Bonza, se kom salavi Bonza, pasi ya mwana moto eke mbama Bonza, se kom salavi
Kofinda se yo
Bonza Itakoka mwa Bonza Se kom salami Bonza Pasi ya mwana moto eke mbama Bonza Se kom salami
Oye akiliba mokolo na yo Na yambiyo na motema Ola atiliputa na mopiko ya biju Pasi nyoso ya mobali Yanga iko na katili kambo nini ye Kobo minga na kofinda
Bonza Itakoka mwa
oh, oh, oh.
Bonza Sekom salavi
tala liboso pate otonga moto mama poni tuna liboso na mopema
onda ika poka moa
ika poka moa
c'est comme ça la vie onda basi ya mwana mokeke mama onda c'est comme ça la vie.
Na mama, na yamiyo na boboto, na lakisi kola tako sukola ongengi, enemi aliboso sena.
Onda, ika poka ma, onda, se kom sarati. Onda, basi ya mwana moto eke ma.